Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Devant toute vie, on devrait s'avancer sur la pointe des pieds, tant les plis de ces dernières sont complexes et profonds, des vies intérieures qui restent bien souvent cachées, parfois même de nos plus proches. Certains font le choix de se confier à tous, c'est le cas de mon invité de ce matin, auteur d'un livre autobiographique abandonné par ses parents, confié à son parrain et sa marraine à l'âge de 3 ans et demi. Jean-Paul Béchu est un résilient, comme l'on dit aujourd'hui, un homme que Dieu a relevé petit à petit, un homme de combat et de conviction. Rencontre. Itinéraire d'un bon à rien, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec vous, Jean-Paul Béchu, vous êtes entrepreneur, multirécidiviste même on peut dire, ancien commissaire général des Scouts Unitaires de France et auteur d'un ouvrage intitulé Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien paru aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Pella.
Voilà, merci d'être avec nous. Je le dis pour que les auditeurs ne soient pas surpris peut-être de certaines choses dans cette émission. Vous êtes en duplex depuis les studios de RCF que l'on remercie à Angers. Vous êtes donc l'auteur de ce livre paru donc aux éditions Arthège avec une belle couverture. On voit un homme qui regarde, on l'espère au loin, et dans sa tête un enfant, donc un homme habité par son enfance. Il y aurait beaucoup de choses
à dire. Je tiens à préciser
que ce n'est pas vous.
Ben non, parce que c'est un homme qui a plein de cheveux. Moi, j'étais chauve à l'âge de 20 ans, donc il y a supercherie sur la photo.
Voilà, mais il faut bien vendre, que voulez-vous. Alors, beaucoup de choses à dire au début de cette émission. J'aimerais que vous commenciez tout simplement par nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre. Je le disais en teasing ce matin de l'émission, et puis je le disais aussi en introduction. Bien des personnes partent avec les secrets de leur vie. Vous avez décidé d'en confier un certain nombre. Pourquoi vous avez fait ce choix, Jean-Paul Béchu ?
La principale raison, c'était pour mes enfants, en fait. Parce que, en tant que parent, on a plein de choses à leur transmettre. Et ce n'est pas toujours le moment pour qu'il y ait une vraie communication. Parce que ils ne sont pas forcément dans l'état de avec la volonté d'écouter. On se dit toujours qu'on est meilleur avec l'éducation des enfants des autres plutôt que les nôtres. De temps en temps, on n'est pas forcément bon avec nos enfants. Et que le fait de pouvoir écrire un livre permettait de laisser la porte ouverte pour une transmission future de tous ces secrets, de toute cette vie, au moment où ils choisiraient d'être à l'écoute. Donc ça, c'était pour m'assurer que je pouvais transmettre tout ce que j'avais à transmettre à mes enfants. Et la meilleure chose, c'était effectivement un livre.
Alors
et
vous...
puis
oui, pardon, vous.
Oui, ensuite, ça a été. C'est la deuxième raison, c'était mon parcours de foi. J'avais envie de montrer que comment Dieu pouvait changer la vie d'un bon à rien. Je voulais transmettre un message d'espérance, en fait.
Alors, de fait, je l'ai dit ce matin, c'est ce que vous dites dans l'émission, à tous ceux dont le fardeau semble aujourd'hui trop lourd à porter, j'aimerais pouvoir leur dire que Dieu est là, tout près d'eux, et leur fait la grâce de leur renvoyer du réconfort et des éclaireurs sur la piste. Alors, c'est vrai qu'en lisant votre livre, ça ressemble à un vrai jeu de piste, un jeu de cache-cache parfois cruel avec Dieu. Je vous propose qu'on commence pas par ça, on va commencer par parler de l'entrepreneur que vous êtes, puisque de bon à rien, vous êtes devenu entrepreneur multirécidiviste. Je voyais en quatrième de couverture, juste avant l'émission, donc vous avez créé 13 entreprises. Aujourd'hui, une entreprise florissante, on y reviendra. Déjà, bon à rien, d'où ça vient ? Qui vous traitez de bon à rien ?
Alors, c'est un petit clin d'œil à un responsable des études, quand j'étais en pension à l'âge de 13 ans, qui avait convoqué ma mère et moi-même en nous expliquant que il fallait mieux que j'arrête mes études parce que j'étais un bon à rien. Donc en souvenir de cet homme-là, qui était un père oratorien, c'était aussi un clin d'œil parce que je pense que de trop nombreux éducateurs prennent les jeunes avec lesquels ils n'arrivent pas à communiquer pour des bons à rien. Donc je voulais à tous les bons à rien leur dire qu'il y avait plein d'espérance et que leur vie ne s'arrêtait pas à la vie négative d'un éducateur ou d'un autre. Voilà.
Alors de fait, vous avez rapidement pris un peu la, la tangente du système scolaire, puisque, si j'ai bien compris, donc après le bac, vous avez choisi de vous lancer assez rapidement. Vous êtes parti une première fois donc, aux États-Unis, vous êtes arrivé à New York, si je ne me trompe pas, et là, rapidement, vous avez voulu créer une entreprise. Racontez-nous ce premier épisode dans le Nouveau Monde, où vous, à peine arrivé, vous créez une société, vous voulez créer une société de ménage.
Alors oui, pourquoi d'abord partir? C'est parce que je voulais m'enraciner ailleurs et que tourner une page sur mon passé pour écrire une belle histoire. Et en fait, dans les années 60-70, la terre promise, ça restait les États-Unis où tout était possible. Donc je choisis les États-Unis. J'ai pas de carte de travail, personne m'attend, j'ai pas d'argent, je suis parti avec trois fois rien. Et donc la meilleure façon de travailler, de trouver un emploi, c'est de faire les tâches que personne n'a envie de faire. Donc
homme de ménage.
Et donc j'ai découvert comment ça pouvait être ingrat d'être au service des autres et d'être pris pour un larbin.
Voilà, donc vous décidez, afin d'accélérer le mouvement, j'estime qu'il est temps de devenir mon propre patron. Vous venez quand même juste d'arriver donc à New York, près de Manhattan. J'ai en effet vite
alors,
compris.
Non. Mais excusez-moi, c'est pas à Manhattan. Cette expérience-là, elle est au Canada, quelques années plus tard. Donc, j'ai effectivement fait plein de petits métiers à New York, mais vous évoquez un passage au Canada.
D'accord. Racontez-nous quand vous décidez de devenir donc votre propre patron. À peine avez-vous commencé des ménages que vous décidez donc vous-même d'essayer de lancer votre propre entreprise.
Ben oui, parce qu'en fait, j'ai bien compris que à cette époque-là, j'avais envie d'être riche et de réussir, parce que un enfant qui a connu ce parcours, ce début de vie, il a besoin de reconnaissance, et que la meilleure reconnaissance pour un adolescent, c'était la lumière, c'était la richesse en fait. Donc tout ce qui brillait, tout ce qui amenait vers la richesse me plaisait. Donc pour moi, la meilleure façon de devenir riche, c'était de devenir entrepreneur. Et comme j'ai pas beaucoup de talent autre que ceux de la l'innovation et de la créativité, je me lançais dans des business que je pouvais maîtriser, qui demandaient pas beaucoup d'argent. Donc j'en ai effectivement monté de nombreux. Et le plus simple, parce que tout le monde en a besoin, c'était effectivement proposer de faire des ménages chez les particuliers, et pendant l'hiver de faire des déneigements. Mais bon, là je me suis pris un os, parce que je voulais là aussi innover, et donc au lieu de me faire payer à l'heure, je voulais me faire payer à la tâche, et se faire payer à la tâche pour déneiger alors qu'il y a des tempêtes de neige qui peuvent durer des jours et des jours, et bien forcément c'était pas une activité très rentable.
C'était presque assuré, oui. Alors dans ce parcours, donc vous êtes revenu en France, après donc vous avez entrepris des études. Je passe sur les clins d'yeux parfois appuyés, parce que donc on prendra le temps de le revoir, et puis sur la vie familiale, ça peut paraître un peu saucissonné de fonctionner comme ça, mais au moins on prendra le temps. Il y a un épisode assez stupéfiant dans votre ouvrage, c'est qu'à l'âge de 24 ans, si je ne me trompe pas, on vous confie la responsabilité de la direction d'une société de nettoyage industriel avec, si j'ai bien lu cette fois, 15 000 employés. Expliquez-nous ce coup du destin.
Bon, ça c'est je suis très opportuniste, donc je me trouve en France. Je suis revenu des États-Unis pour faire mon service militaire, et j'ai décidé de repartir aux États-Unis ou en Amérique du Nord, et je tombe sur une annonce de quelqu'un qui cherchait un précepteur pour ses enfants à Beverly Hills, donc en Californie, et était mentionné dans cette annonce conviendrait tout à fait à quelqu'un qui veut faire un MBA, donc un troisième cycle d'études, ce que je voulais faire. Et donc je rencontre un milliardaire français qui habitait aux États-Unis, qui habitait un petit peu sur toute la, il avait des
dans le monde entier, en vous disiez,
Acapulco, oui, il a plein de résidences, et Il y a tout de suite un petit attachement avec avec cet homme qui sort de l'ordinaire. Et 3 semaines après, effectivement, il m'appelle en me disant, écoutez, j'ai donné le poste à quelqu'un d'autre parce que je pense que vous êtes fait pour les affaires. Et je viens de racheter une petite affaire de 15 000 salariés, deuxième société de nettoyage industriel. Et j'ai besoin de quelqu'un pour redresser les achats et j'ai pensé à vous. Voilà, c'est un conte de fées, on n'y croit pas, on se pince. Et puis j'arrive à New York, on m'a réservé une suite dans un hôtel de luxe. Et là, je prends conscience de la vie de rêve et de la vie de fou que je vais mener avec. Je suis un pauvre abruti à cet âge-là encore.
Avec tous les excès,
je ne sais pas faire grand-chose.
Qui vont avec, oui. Alors, vous racontez donc, vous racontez dans ce livre, donc vous prenez donc de grandes responsabilités rapidement, que tout ça a été fort compliqué, qu'il s'est il s'en est suivi donc une vie aussi de jet-setter, parfois avec tous les excès qu'il y a au milieu de ça. Si on reste toujours sur le volet vie d'entreprise, avant qu'on fasse une première pause, de fil en aiguille, donc vous avez créé une société. Aujourd'hui, c'est une société, vous dites, donc d'une centaine de salariés, avec un certain nombre de clients qui sont des entreprises du CAC 40. Cette société s'appelle Nemshield. Elle est née donc en 1994. Elle a mis 10 ans avant d'arriver à vous payer correctement. Parlez-nous un peu de vous payer tout simplement, voilà. Parlez-nous un peu de cette success story qui a été, on va dire, arrachée à la force du poignet. Et puis expliquez-nous ce qu'est cette société Nemshield.
Eh bien, en fait, en 94, j'ai l'intuition, en voyant Internet, que le monde de l'Internet, dont on ne parlait pas du tout en France, hein, puisqu'on a commencé à évoquer le sujet en France en 97, donc je fais partie des pionniers en ce qui concerne Internet en France, j'ai la vision que l'Internet devrait être géré par les mêmes règles que le monde réel. Et donc j'ai le désir de surveiller l'utilisation des marques sur Internet. Et je commence avec un capital de 8000 euros, rien du tout. Et il m'aura fallu des années et des années pour faire en sorte que les entreprises...
Pour convaincre, tout simplement.
Trouve un intérêt, voilà, exactement. Donc on a failli boire le bouillon, déposer le bilan un nombre incalculable de fois. Et en 2003... on arrête de perdre de l'argent. Alors, et en 2020, aujourd'hui, eh bien, on peut dire que tous les Français utilisent nos services sans le savoir, puisqu'effectivement, on gère les actifs, les marques en fait, numériques d'une quinzaine d'entreprises du CAC 40 et de plus de 3000 clients. Donc, notre métier consiste à protéger le consommateur et les marques sur Internet.
Quand je disais en introduction que vous êtes un résilient, avant qu'on fasse une première pause, est-ce que ça vous va comme terme? Comment vous qualifieriez? On sent que vous avez en fait, dès le départ, dans votre livre en tout cas, une force de vie assez incroyable. Est-ce que vous êtes devenu résilient tout petit d'une certaine manière?
Personne ne m'attend. J'ai été abandonné à l'âge d'un an, mis dans des maisons d'accueil et donc... j'ai pas le confort. Bon, c'est dans ces familles d'accueil, on me donne pas beaucoup grand chose à manger, donc je comprends vite que pour avancer, il va falloir que je me batte et d'essayer d'avancer un pas après l'autre malgré toutes les difficultés. Donc quand il y a des difficultés, et tout le monde en a dans la vie, moi c'est vrai que j'en ai eu, j'ai été gâté et j'en ai eu un bon paquet, et bien j'essaye de voir après chaque choc, de voir comment je vais pouvoir contourner l'obstacle et passer au-dessus. Et je n'ai vu que les obstacles un à la fois. Heureusement que j'avais pas la vision des grandes montagnes qu'il fallait que je surmonte, parce que sinon je pense que j'aurais sans doute perdu un certain enthousiasme. Mais quand on voit les obstacles un à un et non pas le parcours entier, ça donne je pense un peu plus de force pour y aller. Et donc j'avais pas d'autre alternative, personne m'attendait, personne j'avais l'impression que personne voulait de moi, donc il fallait que je trace ma route.
À la fin de votre livre, vous dites la chose suivante: même si je me sens souvent illégitime, même si chaque jour se ravive en moi le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes des personnes que je rencontre, j'ai voulu écrire ce livre pour dire je crois en Dieu. On va faire une première pause et puis on va parler un peu plus de votre vie de famille. Là peut-être, parce que tout le monde n'est pas un serial entrepreneur comme vous, beaucoup de gens se retrouveront d'une manière ou d'une autre. Voilà la vie que vous avez eue, les parents que vous avez eus et comment vous avez cheminé avec ça, et surtout comment... Dieu a commencé à vous rejoindre. Je rappelle le titre de votre livre, une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien, paru aux éditions Arthège.
Emmanuel Pella.
Itinéraire d'un bon à rien, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Jean-Paul Béchu, entrepreneur, ancien commissaire général des scouts unitaires de France et auteur donc d'un ouvrage intitulé Une revanche sur la vie, paru aux éditions Arthège. Je rappelle que vous êtes donc en duplex depuis les studios de RCF à Angers. Jean-Paul Béchu, on continue à parcourir votre livre. On va parler maintenant de un peu plus de votre vie personnelle après avoir parlé de votre vie professionnelle. On dira un mot quand même à la fin de l'émission de votre fondation, hein, Esperantia, c'est important. Si je commence par le début, vous dites au tout début du livre, le premier jour dont je me souviens fut un très grand jour pour moi. J'ai 3 ans et demi et je vais enfin pouvoir manger à ma faim. En fait, vous arrivez chez votre parrain et votre marraine, donc Gilbert et Odile. Vous savez que vous êtes né donc de père inconnu, abandonné à l'âge de 1 an. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce souvenir? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon et dans son cœur quand à 3 ans et demi, on vit une chose pareille?
Ben je venais d'une famille d'accueil, pas très accueillante, hein, j'en ai connu deux, pas beaucoup de souvenirs, des souvenirs sombres, mais pas de souvenirs extrêmement précis. Et là, je suis visiblement attendu, non pas comme le bon Dieu, mais attendu, puisque sur le perron, je vois des gens de chaque côté du perron qui me regardent avec une grande attention. Je descends de la voiture et on me fait gravir ces marches. Et je sens que, il y a de l'attention pour moi, il y a des sourires, il y a de la bienveillance. Et puis j'arrive dans une maison où, un petit peu à gauche, là, je vois une piscine. Donc je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'environnement. Donc je me dis... c'est une maison où il a l'air de faire bon vivre, donc je suis plein d'enthousiasme, me disant aussi que je ne suis pas à ma place et que ça risque de ne pas durer longtemps, puisque je suis ballotté d'un endroit à un autre, mais tout ce qui est bon et tout ce qui est pris n'est plus à prendre, donc voyons ce qui va m'arriver.
Alors, vous avez donc des sœurs dans cette famille qui ont l'air d'être attentives et aimantes, en tout cas certaines particulièrement. Vous grandissez dans cette famille, donc avec quand même cette blessure au cœur. Vous dites à un moment, comme la plupart des enfants adoptés, « J'ai longtemps porté en moi la blessure de l'abandon qui laisse le sentiment profond de ne pas être digne d'être aimé. » Vous faites un peu les 400 coups, hein, vous chapardez, bref. Vous avez quand même une éducation assez solide et puis de belles rencontres. Parlez-nous un peu de votre père ou de ce parrain Gilbert au fur et à mesure donc de votre vie petit à petit et, les écailles vous tombent des yeux ou en tout cas le mensonge familial se fait jour.
Alors c'est vrai que dans cette famille je suis attiré par mon parrain Gilbert. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un qui m'emmène à la chasse et je suis pas forcément fanat de la chasse, mais en tout cas c'est des moments privilégiés où on est obligé de faire de la voiture ensemble, où je peux lui parler. Il est tout à moi. Et il y a aussi, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, qui a des amis. Et donc de le voir vivre en société avec ses amis, c'est pour moi des moments privilégiés. Et malheureusement,
vous avez aussi envie de devenir chef d'entreprise comme lui. Il faut le dire quand même.
Mais j'ai envie de faire tout comme lui.
Ça ne vous est pas venu de nulle part. Voilà.
Exactement. C'est un entrepreneur et en fait, j'ai bien envie de calquer ma vie sur lui qui est un modèle. C'est un homme de foi. C'est un homme qui manie le verbe avec beaucoup d'humour. C'est un homme qui a, voilà, on sent qu'il a quelque chose, qui a un certain rayonnement et donc il me fait envie. Et puis malheureusement, cet homme-là m'abandonne. Donc, puisque à 13 ans, il meurt et on me dit qu'il est décédé d'une crise cardiaque, ce qui n'était pas vrai. Je l'apprendrai quelques années plus tard.
Vous découvrez aussi donc cet homme que vous appelez votre père, en fait, de manière assez inopinée. C'est vraiment, difficile de lire ça dans ce livre. Vous apprenez ça par la bande, comme on dit. En fait, cet homme est réellement votre père. C'est pareil, sans vouloir être trop intrusif, en pensant à ceux peut-être qui ont des parcours de vie compliqués. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ?
Écoutez, je suis au mariage d'une de mes sœurs. Je reviens des États-Unis pour l'événement et sur le coup d'une heure, deux heures du matin, un oncle que j'apprécie énormément, qui avait bu un petit coup de trop, fait une allusion et je fais semblant d'être au courant. Et du coup, libéré, il me lâche comme ça, tout en plan que mon père adoptif était en fait mon vrai père.
Et
c'est comme ça que je l'ai appris.
Ouais,
Et je m'enfuis, je me réfugie dans un bout de, enfin à l'extérieur, pour fumer une cigarette, puisque à l'époque je fumais, et je suis en pétard furieux. Mais quelque part aussi heureux parce que cet homme, je l'ai exprimé tout à l'heure, j'avais de l'admiration pour lui et de savoir que, en fait, j'ai un père, je ne suis plus né de père inconnu, mais que je connais mon père, ça a quand même été un très beau cadeau. Néanmoins, je suis furieux parce qu'il m'a rien dit, il m'a pas laissé de message, pourquoi? Enfin, voilà, Et puis pourquoi ce mensonge surtout? Donc me dire combien de personnes étaient au courant et je suis le dindon de la farce. Tout le monde est au courant. Moi je ne sais rien et on continue à se moquer de moi. Donc là encore, c'est renforcer la volonté de quitter cette famille parce que la seule personne pour laquelle j'avais une vraie relation était plus là et donc à moi de créer ma famille loin de tout ça.
Alors Jean-Paul Béchu, dans votre livre, si on s'arrête un petit peu avant de continuer votre histoire familiale, on sent que, enfin il y a de la vérité, hein, mais on sent surtout qu'il y a quand même une profonde tendresse. Vous dites d'ailleurs au début de votre livre que fort des épreuves que vous avez vécues, particulièrement donc de la mort de votre père, vous avez un passage où vous dites « J'essaye de ne pas trop juger rapidement les faiblesses faiblesses des personnes que je rencontre, car je sais d'expérience qu'elles peuvent être la conséquence d'un traumatisme. Vous-même, vous exposez votre fragilité, hein, avec pudeur. Entre autres, vous dites, ça je peux me dire que ça peut parler à quelques hommes, que de temps en temps, à la maison, vous pétez les plombs, vous explosez, et que le seul moyen d'arriver à vous calmer, c'est de mettre vos baskets, de courir jusqu'à épuisement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sans nous rentrer dans les détails, en pensant à ceux qui justement essaient de vivre avec leurs failles et qui parfois se retrouvent bien, bien malheureux de ne pas aimer comme ils voudraient?
Oui, en fait, on a tous nos fragilités. La mienne, c'était le fait d'avoir été abandonné. Pour moi, c'est une représentation. Enfin, ça veut dire que on n'est pas digne d'être aimé. C'est le témoignage d'un non-amour. Et donc, de ce fait-là, il y a une blessure qui met très longtemps à cicatriser. Moi, elle a mis 32 ans pour se cicatriser. J'ai mis 32 ans pour me laisser aimer et être en capacité d'aimer. Donc, je dis ça intentionnellement pour toutes les parents qui ont adopté des enfants et qui ne comprennent pas forcément pourquoi, malgré tout l'amour qu'ils leur donnent, l'être qui donne cet amour n'est pas capable de le recevoir et n'est pas capable de réciprocité. Et donc, c'est ça ma blessure. Pas de reconnaissance, pas l'impression de d'être un fardeau pour les uns et pour les autres. Donc, il y a quelque part un désespoir et malheureusement ça conduit à une certaine de violence contre soi-même. En fait, on est furieux contre soi-même, parce que je pense qu'il faut à un moment donné être capable de s'accepter tel qu'on est pour avancer dans la vie. Et donc moi j'ai ce refus permanent et je joue la comédie, hein. Vous avez été gentil, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai volé pendant des années, j'ai menti, enfin je suis pendant de nombreuses années un horrible personnage, et donc mais qui essaye petit à petit de se corriger, et donc effectivement je pète les plombs, et pour moi c'est le sport, je me réfugie dans le sport à outrance quand j'ai une vingtaine d'années, pour combattre à travers l'épuisement toutes ces bagarres, ces combats qui m'animent intérieurement.
Alors Jean-Paul Béchu, juste pour vous, vous dites que vous avez mis 32 ans à vous laisser aimer, et puis on entend derrière en fait à vous autoriser peut-être aussi à vivre. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire, fort du recul que vous avez maintenant, après l'écriture de ce livre, et eu égard à votre âge, et puis donc vous êtes marié, vous avez eu des enfants, on l'a pas dit au début de l'émission, hein. Est-ce que vous voyez des chemins de traverse, est-ce qu'il peut y avoir des raccourcis pour cicatriser ces blessures, parce que vous avez pris des chemins de traverse aussi qui n'étaient pas les bons, et puis lorsque vous avez été commissaire général des scouts unitaires de France, on y viendra un peu plus tard, vous aviez ce souci de dire aux jeunes de pas perdre de temps. Alors est-ce qu'il y a des raccourcis quand on a quand on porte des grandes blessures comme ça, et quels sont-ils?
Bah, il faut se tourner vers le créateur, lâcher prise et lui demander pardon pour toutes les atrocités qu'on est capable de faire, lui demander de nous prendre par la main pour nous guider. C'est ce pèlerinage vers le Seigneur que j'ai fait quand j'avais 23 ans qui m'a finalement permis de changer totalement de vie, et de passer d'une vie d'excès et où je me suis réfugié dans plein d'impasses, de finalement entrevoir au loin une voie un petit peu dégagée, un petit peu sinueuse, mais qui menait vers l'espérance et vers la vie.
Alors on va faire, on parlera de votre vie de foi, hein, juste après avoir fait une deuxième pause. J'aimerais juste avant que vous nous parliez de votre mère. Alors vous préfacez votre livre, il y a une forme d'ambiguïté à ma mère, à maman. On imagine qu'en fait il y a les deux peut-être, il y a celle qui a été donc votre mère adoptive d'une certaine manière, hein, et puis il y a votre maman tout court. Votre maman, vous avez fini par retrouver sa trace. Alors c'est justement, j'ai trouvé que c'était bon de lire ça, parce que ça prouve que nos radios servent à quelque chose quand même. Suite à une interview donnée à RCF, justement, vous avez reçu un jour un courrier après avoir crié vers Dieu, après lui avoir dit que voilà, vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui se passe, un courrier dans lequel, un courrier elliptique, hein, assez rapide, laconique, vous dites, pardon, qui vous dit que vous n'êtes pas un enfant de la DAS, mais que vous êtes d'origine bourguignonne, vous n'êtes pas un enfant de l'assistance publique. Cette maman, vous l'avez retrouvée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre, vous dites, c'est plus de 50 ans après, c'est ça?
Oui, alors déjà, je vais inverser puisque je considère ma maman, celle qui m'a adopté et qui m'a donné tout cet amour pendant de nombreuses années. Et par contre, j'appelle ma mère, celle qui m'a donné la vie.
D'accord.
Donc effectivement, je reçois un courrier il y a maintenant 5 ans, donc 50 ans après, plus de 50 ans après mon abandon. D'une lettre comme ça avec 6 photos, 3 de moi enfin jeune enfant de 4-5 ans où je me reconnaissais parce que c'est des photos que j'avais plus ou moins vues, et puis 3 photos d'un bout de chou d'un bébé que je reconnaissais pas, et je finis par comprendre que ces photos sont aussi de moi enfant, et j'ai la chance de pouvoir, à travers une histoire complètement rocambolesque, reprendre contact avec ma mère
Donc vous avez
15
engagé un
jours
détective
après.
privé quand même aussi, rien que ça, pour
Ben
arriver à la
oui,
retrouver?
oui, ben, ben oui, c'est des trucs qu'on voit dans les films, hein, mais j'ai une vie qui est vraiment un scénario de film. En fait, il y avait sur l'enveloppe un code postal, enfin, que j'avais pris pour un code postal qui était le 21530. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas forcément les départements. Le 21, c'est les Côtes d'Or. Donc on me dit que je suis un enfant d'origine bourguignonne. Je vois le code postal. Et donc, j'appelle un détective de Chalon-sur-Saône en disant, voilà, je connais le nom de ma mère, puisque elle est sur l'état civil, même si je suis de père inconnu, son nom était là. Et j'ai reçu cette lettre avec un autre prénom. Et peut-être c'est ma mère. Et donc, une semaine après, le détective me rappelle en disant, je l'ai trouvée.
À retrouver sa
Et
maman.
donc,
Alors même chose en
voilà.
fait, même chose à propos de cette rencontre donc avec votre mère donc plus de 50 ans après. Pour ceux qui vivent des, on va dire des déchirures familiales ou oui des déchirures ou des abandons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette fin heureuse qui pourrait parler à d'autres?
Oh là là, c'est une question bien difficile. Je crois que c'est de connaître cette fin-là, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, il faut pas attendre qu'il y ait une fin heureuse. Je crois que si on est dans cette attente, ça nous empêche de vivre dans l'instant présent. Donc, déjà, le conseil que j'ai à donner, c'est ne regardez pas dans le rétroviseur, mais ce qui vous attend devant vous, et faites en sorte que malgré les difficultés, eh bien, vous puissiez être heureux. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir la recette du bonheur assez jeune, parce que je m'imaginais l'enfant le plus malheureux de la terre. Et un jour, un ami me demande de le suivre avec autorité. Et cet ami-là, j'étais en pension, j'avais 13 ans, et m'emmène voir une personne âgée dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul, qui est une association qui est dévouée aux autres. Et je me retrouve devant une femme qui vivait dans une pauvreté extrême. Et je me suis aperçu que malgré mes fragilités, parce qu'elles existaient, j'arrivais à lui faire du bien. Et que finalement, de lui faire du bien me faisait du bien à moi aussi. Donc c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai découvert que s'occuper des autres rendait heureux. Donc pour tous ceux qui connaissent des vraies difficultés dans leur vie, la seule façon pour moi de pouvoir vivre avec, c'est de se tourner vers les autres. Parce que forcément, autour de nous, il suffit d'ouvrir les yeux, il y a des gens beaucoup plus malheureux que nous et qui nous permettent de donner un peu d'amour, de donner un peu de joie et finalement de transformer nos vies, puisque ça au lieu de enfin, on se détourne de notre nombril et on voit davantage la place qu'on peut prendre en étant à côté de ceux qui souffrent réellement autour de nous.
On va faire une première pause, deuxième pause, pardon, Jean-Paul Béchu. On n'oubliera pas de parler à la fin de l'émission donc, de cette fondation que vous avez créée, qui s'appelle donc Esperantia, qui propose donc à des entreprises de donner 1% de leur chiffre d'affaires pour participer donc au financement d'associations qui œuvrent comme ça pour faire du bien, comme l'association Saint-Vincent-de-Paul. On fait une deuxième pause, on vous retrouve juste après. Le titre de votre livre, Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien, paru aux éditions Arthège.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Itinéraire d'un bon à rien, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Jean-Paul Béchu, auteur d'un ouvrage intitulé Une revanche sur la vie, avec ce sous-titre presque comme le titre de l'émission, Le parcours d'un bon à rien, paru aux éditions Arthège. Jean-Paul Béchu, à la fin de, enfin dans la dernière partie de cette émission, on l'a compris puisque vous l'avez dit dans votre introduction que j'ai lu, puis dans la conclusion, vous avez eu un compagnon invisible au long de votre existence que vous avez appris à découvrir. La première fois qu'on en entend parler dans votre livre, c'est au moment de votre promesse, parce que donc vos parents, non pas adoptifs, votre parrain et votre marraine, chez qui vous arrivez à 3 ans et demi, pour ceux qui rejoindraient l'émission par hasard, puisque vous avez été donc abandonné par votre mère et vous êtes né au départ de père inconnu, vous ont fait faire du scoutisme. Donc vous avez fait votre promesse et vous avez cette phrase, mon grand jeu de piste sur les traces du Christ commence véritablement ce jour-là. Est-ce que votre vie spirituelle, quelque part, vous avez l'impression que c'était un jeu de piste ?
Je crois que j'ai été très très gâté dans ma vie puisque le Seigneur m'a fait plein de petits signes que je percevais pas forcément ou j'avais pas envie de percevoir. Hein. J'avais comme chacun ma petite conscience qui m'interpellait. Mais il m'a envoyé des signaux de plus en plus forts. Et le premier, effectivement, c'est lors de cette promesse.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement? Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là?
Eh bien, comme dans tous les moments importants de ma vie, j'ai senti que quand je me suis agenouillé devant le prêtre, il y avait un père du ciel, même si j'avais pas mon père m'avait abandonné, j'avais un autre père au ciel, et ça m'a donné beaucoup d'espérance. J'ai vécu ça à plusieurs autres reprises dans ma vie. Pour me dire, Jean-Paul, tu n'es pas seul. C'était ça, en fait, le message que j'ai reçu ce jour-là, ce jour de la promesse.
Et un autre moment important, c'est vous parler de votre confirmation. Vous avez cette phrase, j'ai reçu à bras ouverts ce cadeau que Dieu, je crois, destine à chacun d'entre nous, le don de l'Esprit-Saint, une source incommensurable d'intelligence, de sagesse, de force et de bien d'autres dons attestés par des siècles de tradition. C'est vrai que quand on lit votre livre, on sent que vous êtes un garçon comme tout le monde, et puis en l'occurrence qui porte des grandes blessures. Et pourtant, alors peut-être est-ce la relecture, mais par moments vous avez des éclairs comme ça, vous avez comme une espèce d'intelligence de la foi toute simple, toute naturelle. Cette confirmation, enfin bien des jeunes aujourd'hui veulent la confirmation peut-être sans cette conscience précise. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de ce moment?
Ça a été... c'est tout à fait paradoxal, parce qu'à cette époque-là, je suis encore un voyou, un menteur, un révolté. Et ce moment-là, je le vis dans une grande sérénité. Je commence par chanter Veni Creator, enfin chant latin, je comprends rien à ce que je chante, mais je le chante à tue-tête avec, vous savez, ce cri de d'espérance, en disant en gros que quelqu'un sur cette terre m'aime, toi le Créateur, aime-moi, et il me répond d'une façon tout à fait singulière. C'est que au moment où l'évêque impose ses mains, je ressens la présence de cet Esprit Saint, comme s'il descendait sur moi. Et je me dis là, je vais pouvoir demander conseil, je vais pouvoir avoir un guide qui me montre la voie. C'est ce que je ressens réellement, profondément au fond de moi. Ça ne m'a pas empêché quelques minutes après d'oublier, mais je sais qu'un jour, je pourrai lui confier tous les pas de ma vie.
Avant qu'on revienne à votre grand retour à Dieu qui s'est passé sous une douche, alors c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais j'aimerais que vous nous parliez d'un épisode. Un jour, alors je ne sais plus dans quelle ville vous êtes à ce moment-là, parce que vous avez quand même pas mal voyagé, il me semble que c'est en France. Vous êtes dans une chapelle et il y a une très jeune sœur qui ne s'est pas aperçue de votre présence et qui se met à jouer du violon. Dans votre livre, vous y arrêtez quand même un moment, vous dites qu'à ce moment-là, vous avez compris de manière assez ébahie, en fait, ce que ça pouvait vouloir dire que d'avoir un grand amour pour le Christ. Racontez-nous cet épisode.
C'est à Montmartre. Je vais régulièrement à Montmartre voir les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Et je suis effectivement tout seul dans cette chapelle. Et une jeune sœur qui devait avoir une vingtaine d'années rentre avec son étui à violon, ne me voit pas parce que je suis caché, et commence à jouer divinement bien. Je pense que elle avait fait le conservatoire, donc et je me dis, moi qui me pose beaucoup de questions sur ma vie, elle vit une vraie une relation d'amour à travers son violon avec le père, et elle est jolie comme un cœur, elle a des beaux yeux clairs, et je me dis comment une fille aussi jolie peut donner sa vie totalement, se donner totalement au Créateur. Et là, je ressens c'est ce que peut être une relation d'amour.
Donc un peu plus tôt, il y a un épisode comme ça, donc vous avez une conversion, vous êtes sous la douche, je me souviens plus exactement de l'âge que vous avez, c'était en 1983 si je ne me trompe pas, oui. Vous dites la chose suivante, je suis sous ma douche, les gouttes d'eau me martèlent le crâne, j'ai l'intuition que je m'apprête à vivre un moment très important et sans crier gare, mon cœur déborde de sanglots, je tombe à genoux, les mains jointes, sans comprendre ni réaliser ce qui m'arrive. J'adresse à Dieu une prière avec ferveur et de toutes mes forces et j'ose demander « Je veux te suivre, Seigneur, montre-moi la voie, accorde-moi un nouveau départ. » Là, c'est vrai qu'on se croirait presque dans un film américain. C'est toujours... on a peut-être vu certains films évangéliques comme ça, voient des hommes qui vivent des conversions subites. On appelle ça dans le jargon aussi une effusion de l'esprit. Là aussi, en pensant aux auditeurs qui parfois cherchent, tâtonnent, qui ne reçoivent pas d'effusion de l'esprit... ce retour à Dieu, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en fait ? Vous avez l'impression que ça vous est tombé dessus, que c'est tout simplement une grâce ou vous y êtes pour quelque
Alors,
chose ?
Je pense qu'un cadeau se donne, mais ça se reçoit. Et pendant des années, je n'ai pas voulu recevoir ce cadeau. Et je pense que c'est aussi beaucoup dans mon entourage, je vois beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui ne veulent surtout pas tendre les bras et accepter le cadeau que, de la foi que le Père veut leur donner. Il utilise des messagers. Pour revenir juste avant, pour me toucher, il a choisi comme messager cette petite sœur. Et donc il nous envoie des messagers pour nous faire passer des messages. On est plus ou moins réceptif à ces messagers. Donc, mais vous avez bien compris que j'étais un récalcitrant et que j'avais envie de le suivre, mais j'étais incapable de faire, de lui donner suffisamment de temps, de l'écouter. Donc là, je pense que c'était une vraie grâce parce que là, il m'a donné vraiment un coup de massue et il a fait en sorte que je l'écoute et que je comprenne aussi que. La seule façon d'accepter ce cadeau, c'était de lui demander pardon. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'étais encore un brigand le fait de tomber à genoux comme ça, c'est vraiment une reconnaissance que sans toi, moi qui veux être brillé, qui veux toujours être le meilleur, montrer que je suis le plus fort, je prends conscience à ce moment-là que je ne suis rien et que je ne peux rien être sans ce Créateur et que j'ai envie en fait le suivre et qu'il me montre la voie parce que je suis incapable de choisir la voie qui conduit au bonheur.
Alors ce retour à Dieu, cette conversion, donc a eu des suites et des suites nombreuses. Il y en a une entre autres importante. On l'a entendu plusieurs fois dans l'émission. C'est donc le scoutisme. Vous avez été donc commissaire général des scouts unitaires de France pendant 3 ou 4 ans. Le scoutisme, ça a été donc une rencontre, un coup de cœur. Et plus que ça, vous avez aussi touché du doigt. Vous dites la chose suivante, le scoutisme est une œuvre de Dieu et manifestement le Seigneur, en tout cas vous appelez à y consacrer beaucoup de temps. Expliquez-nous ce scoutisme comme une œuvre de Dieu. Pourquoi vous avez cette certitude si profonde ?
Alors j'avais, sans l'avoir analysé, j'avais un peu ce sentiment que dans le cadre du scoutisme, il y avait de nombreuses... rencontre avec le Seigneur. Oui, parce que on est dans la nature qu'il a créée. On vit des moments de prière réguliers en communauté. Donc même si soi-même on n'a pas envie, bah finalement on se laisse toucher par la piété des uns et des autres et que c'est peut-être à ces moments-là parce qu'on a du respect pour et de l'amitié pour ceux avec lesquels on partage ces instants de vie. Peut-être qu'on se met davantage à l'écoute. Mais j'en ai pris davantage conscience, effectivement, quand j'ai été d'abord chef de groupe, où j'ai compris que le meilleur serviteur, le meilleur chef, c'était le serviteur, celui qui se mettait au service de ceux et de celles qui leur sont confiés. Et plus tard, j'ai essayé de comprendre... quand j'étais appelé à être responsable des scouts unitaires de France, j'ai suivi j'ai essayé de comprendre en fait d'où venait ce scoutisme. Et
alors vous avez aussi reçu une grâce, si je peux me permettre d'aiguiller votre réponse, c'est-à-dire que avant d'accepter le poste donc de enfin la responsabilité de commissaire général des scouts unitaires de France, Dieu vous a touché d'une manière très singulière.
Oui, alors c'est encore un peu à la Hollywood, hein. C'est encore le Seigneur s'y est pas pris par quatre chemins. Je suis dans une église que j'affectionne tout particulièrement, Solem, où je mets pied à terre, puisque quand il y a eu cette première annonce de la possibilité que je prenne la direction des scouts unitaires, forcément il y a eu encore un ego incroyable et où j'étais en train de me faire ma propre.
Racontez-nous la grâce que vous avez reçue, Jean-Paul Béchu. Donc c'est dans cette église de Solem. Qu'est-ce qui vous arrive
dans cette église avant qu'on vous propose ce poste? Je dis Seigneur, je suis pas l'homme de la situation. Pourquoi tu me donnes j'ai encore plein d'orgueil, je manque d'humilité. Or pour être un bon chef, il faut savoir servir. Donc s'il te plaît, je suis pas à la hauteur et choisis quelqu'un d'autre. Et à cet instant-là, je reçois un petit SMS que je ne regarde pas. Et en sortant de l'église. Ce petit SMS, c'était le commissaire général de l'époque qui me demandait de venir passer quelques temps à la maison.
Alors vous dites aussi donc que vous avez aussi, enfin je me permets de vous citer, hein, lors d'une célébration, donc vous avez recevé une grâce, comme on dit, sensible, particulièrement forte. Je suis envahi d'une douce chaleur, submergée quand viennent la consécration et l'Eucharistie, je fonds en larmes sans pouvoir m'arrêter. Et vous avez donc la certitude de la présence de Dieu, donc à ce moment-là à vos côtés. Jean-Paul Béchu, un mot donc à la fin sur cette fondation que vous avez créée, qui s'appelle esperancia.org.
Je peux dire un petit quelque chose quand même, parce que c'est la foi, c'est pas uniquement des grâces comme ça qui sont extrêmement fortes, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs vont se dire mais il a vécu quelque chose quand même que peu de gens rencontrent. Il y a quand même, et j'en ai pris conscience, je parlais des messagers, il nous envoie plein de messagers, et le fait d'avoir écrit mon histoire m'a permis aussi de faire une relecture sur tous ces messagers qu'il m'a envoyé à plein moment de ma vie, qui m'ont fait passer des messages que j'étais pas en mesure d'écouter. Donc oui, le Seigneur habite cette terre, est à côté de nous, et soyons réceptifs à ces personnes qu'il envoie pour nous dire les paroles qui sont là pour non seulement nous réconforter et nous montrer la voie.
Voilà, le message en tout cas est passé. Donc esperancia.org, c'est donc cette fondation que vous avez créée. Donc vous proposez à des particuliers ou à des entreprises de vous rejoindre. En tout cas pour les entreprises, 1% du chiffre d'affaires donc est reversé à des associations qui œuvrent spécialement pour la petite enfance, l'éducation et la réinsertion. Un site internet esperancia.org. Merci beaucoup Jean-Paul Béchu d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien, paru aux éditions Arthège.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.